Bonjour à tous, ici Chantal Doré à la barre d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Nous sommes à quelques jours de l'Halloween et j'avais envie qu'on cause des peurs. De la peur, des peurs. D'abord, celles qu'on subit. Celles qui sont reliées à notre réalité. Celles qui parfois sont reliées à une imagination débordante. Celles qu'on s'invente. Et parfois, des peurs qui nous sont transmises de génération en génération. C'est d'ailleurs un sujet que je vais aborder avec ma première invitée, Ginette Bureau, qui est autrice d'un livre sur les transmissions inconscientes qui s'appelle « Guérir la mère ». Donc, ce sont des peurs là, qu'on se transmet de génération en génération et ensuite, on va causer des peurs que l'on s'inflige volontairement. Comment volontairement peut-on s'infliger des peurs, me direz-vous? Oui, comme je disais, il y a toutes celles qu'on s'invente, mais il y a aussi celles qu'on provoque. Comment ça? En écoutant des films d'horreur. Et je sais que c'est un plaisir coupable, délicieux, bizarre pour plusieurs personnes. Personnellement, je ne suis pas nécessairement une fan du genre, mais je peux comprendre cette impression-là de sortir complètement de notre réalité. Et comme j'ai un fils qui est vraiment addict, je pense que c'est vraiment le mot, là, il adore les films d'horreur, il adore surtout les écouter avec ses amis. Donc, j'avais envie de creuser ce phénomène-là avec une cinéaste de genre. Isabelle Grondin a produit plusieurs films d'horreur. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette passion-là pour les films d'horreur et comment c'est une émotion là, qui parle de nous et comment peut-être elle bouge au fil des ans. On vous a également concocté une programmation musicale dans laquelle il y a à peu près le mot peur partout. Mais vous allez voir, c'est très, très sympathique. Même 4 des 5 chansons ont le mot peur dedans, sauf cette prochaine qui s'appelle Champagne. Et je tiens à remercier Maurice Bolduc qui est derrière le plexiglas avec moi, qui nous a fait ces suggestions musicales-là, dont plusieurs que j'apprends et que je connais grâce à lui. Donc, j'espère vous les faire découvrir. Et cette première pièce-là qui s'appelle Champagne, ben moi, je me disais, tu sais, avec un petit verre de champagne, il y a bien des peurs qui tout à coup s'aplanissent. Alors, Jacques Higelin, Champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu as marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Envoie.
Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Champagne de Jacques Higelin. Je sais pas vous, mais moi, j'avais l'impression que ça aurait pu être dans la bande sonore du film Beetlejuice. Ce film-là est le film fétiche de ma belle-fille Léa, qui a atteint son quart de siècle cette semaine. Alors, je tiens à lui dire bonjour. Et pour tout dire à quel point c'est une passion, mon charmant fils l'a demandé en mariage dans le bar Beetlejuice à New York. Je vous parle de mon fils et j'espère, mes fils, que je ne leur ai pas transmis trop de peur intergénérationnelle. Et j'en discute avec Ginette Bureau, autrice d'un livre qui s'appelle « Guérir la mère, transmission inconsciente » chez Fides. Elle est aussi doctorante sur le sujet du moi dans l'autobiographie et le soi des rituels. Bonjour Ginette.
Bonjour Chantal. Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
C'est on transmet pas les peurs qu'on n'a pas nous-mêmes.
Ah.
Habituellement, on transmet quelque chose d'inconscient. C'est celui-là qui est le plus agissant. Mais je vais te laisser aller avec tes questions. Je ne sais pas par quel bord tu veux prendre le récit essai. Là. C'est une recherche en même temps que je raconte par ma propre expérience, j'essaye de démontrer les transmissions inconscientes, puis j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire.
Oui.
Je le fais, puis je le donne en cadeau.
C'est ça, effectivement, on va camper ça pour les auditeurs. Vous n'êtes pas une psychothérapeute ou une spécialiste de la transmission, mais vous avez vous-même vécu, pris conscience à quel point il y a certains sujets là, qui se transmettent, et vous avez décidé d'en tirer un livre dans lequel, en fait, qui est un essai, vous avez fait... excusez le terme, comme disent les complotistes, vous avez fait vos recherches sur le sujet, ça vous a amené à documenter le sujet, et c'est donc un livre qui est, ma foi, fort intéressant, là, vraiment entre le récit et l'essai, et c'est ce qui m'a amené de la curiosité de dire justement qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre?
Bien, moi, j'ai assisté par hasard, écoute, il y a plusieurs motivations, mais il y a un déclencheur. Puis j'ai assisté à une conférence qui s'appelait une conférence sur la psychogénéalogie puis l'analyse transgénérationnelle, avec sous-titre « Comment se dégager du poids des transmissions familiales inconscientes ». Et puis là-dedans, bon, on parlait de mémoire, qu'on transmet à nos enfants, à nos petits-enfants, puis comment les petits-enfants sont l'histoire finalement des parents puis des grands-parents. Et ça m'intéressait beaucoup. J'ai d'abord été du côté de la lumière parce que je me disais si, parce qu'il paraît que quand on n'a pas vécu un deuil dans la vie ou un inceste qui a été dissimulé ou quelque chose qui a été caché, ce secret-là peut être réactivé dans un être plus sensible de la lignée. Alors, je ne sais pas ce que je portais, là, mais moi, il y avait des enfants qui étaient réanimés en moi. Et puis, après avoir été chercher du côté de ma famille, parce que je me disais, hey, j'ai eu toutes sortes d'épreuves dans la vie, là, t'as vu, j'ai perdu une fille à 15 ans, et tout ça. Et je finissais toujours par rebondir à la vie, puis je voulais aller chercher, c'est quoi mon goût de vie, où je l'avais pris. Donc, j'ai fait une recherche dans l'histoire de ma famille.
D'accord.
Du côté de mon père. Et puis là, j'ai vu que fouiller dans nos racines, ça nous fortifie. Et c'est au lendemain de l'apparition de cette histoire-là, de mon histoire de famille, que est arrivée une espèce de crise dans ma famille qui m'a obligée à faire une recherche. Et ça a été le déclencheur. J'avais une faiblesse en moi, une faille qui s'animait beaucoup. Je savais avec ma tête que ça n'avait pas de bon sens. Là. Écoute, j'ai fait plein de recherches pour la maîtrise, pour le doctorat, la différence entre le moi et le soi. J'ai travaillé fort pour me connaître. Puis je me disais, pourquoi que cette affaire-là me dérange autant? Qu'est-ce que je porte?
Vous essayez de voir qu'est-ce qui vous appartient à vous dans votre histoire personnelle et ce qui appartenait à la lignée familiale.
Je ne savais pas à ce moment-là. À force d'avoir mal puis d'aller chercher de l'aide, j'ai dit, ben écoute, je veux savoir pourquoi. Pourquoi ça me fait si mal? Puis pourquoi je le prends? Puis bon, tous ces pourquoi-là, tu as vu dans le livre que finalement je suis allée en EMDR.
Donc, expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que
c'est. EMDR, c'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire en français une désensibilisation et un retraitement des informations par le mouvement des yeux. On ne sait pas pourquoi que ça marche, mais les yeux, quand ils vont de gauche à droite, ça fait une trentaine d'années que le traitement existe. Pendant que tu es dans un espèce d'état second, le thérapeute, il va chercher une mémoire qui est figée dans ton cerveau reptilien, puis il l'amène à la conscience. Et là, tu vis l'émotion que tu as bloquée quand tu étais petite. Et puis là, ben tu le revis comme si tu avais... Moi, c'était à 2 ans, la mémoire qui m'est revenue. Et puis à ce moment-là, j'ai constaté comment que cette mémoire-là, cet événement-là, avait conditionné ma relation aux autres. Puis j'attirais souvent les mêmes événements pour pouvoir le déloger, mais j'étais tellement habile à raisonner puis à analyser puis que je la vivais pas, l'émotion. Puis c'est l'émotion qu'il faut que tu vives si tu veux la débloquer.
C'était une forme de rationalisation, donc vous compreniez, mais vous ne le viviez pas.
Oui, puis quand on fait juste analyser puis comprendre, ben il paraît que les spécialistes disent ça met l'émotion ou l'événement en dessous du tapis, comme en banque, puis ça fait de l'intérêt, puis ça fait de l'intérêt, puis il y a tout le temps un déclencheur qui vient leur déclencher, puis tu dis, ben ça n'a pas de bon sens parce que tu le raisonnes. Mais là, plus j'avançais en âge, moins j'étais capable, et plus j'avais l'impression qu'il me fallait que j'écoute mes émotions. Et puis finalement, ben, j'ai tombé malade physiquement aussi. Et j'ai connu à la fois le déblocage psychologique et le déblocage physique. Puis c'est le même blocage qui se manifestait dans mon corps, parce que ça finit par se manifester dans le corps, une émotion que tu oublies tout le temps, puis tu veux, tu nies, puis tu... Bon, puis j'ai eu toutes sortes d'aides qui ont fait en sorte que j'ai vécu des moments qui m'ont éclairé sur... les actions que je devais prendre, parce que finalement, il faut que tu fasses...
Ginette, juste pour qu'on comprenne bien, puis je veux pas... Je sais que c'est quand même un récit public, là, mais on est à la radio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui éclairait les auditeurs, là, concrètement, sur ce que vous avez vécu?
est-ce que tu veux parler du déclencheur ou si tu veux parler de mes recherches?
Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, qui a fait en sorte que vous êtes dit « Ah, voilà, c'est ça! » Puis racontez ce que vous êtes à l'aise, là, mais...
Tu veux que je raconte la petite affaire que c'est pas si grave que ça, ce que j'ai vécu à 2 ans, là. Mais c'était tellement... je vais essayer de le raconter sans me remettre dans la même émotion, parce que je l'ai tellement pleuré et libéré que ça n'a pas de bon sens. J'ai 2 ans, ma mère est dépressive. Et puis moi, j'essaye de l'aider pour lui faire plaisir, puis... My God. OK. Je lave la vaisselle. Je suis montée sur une chaise, puis j'essaie de laver sa vaisselle. Et puis, je la vois sortir de la chambre, et puis elle est triste. Puis, elle n'apprécie pas ce que je fais quand elle me chicane un peu. Et là, en vivant ça, là, je vais raccourcir l'histoire, là, mais en vivant cette émotion-là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois dans la vie, je travaillais toujours pour le bonheur des autres. Puis je me mettais le cœur en avant pour essayer de les aider. Puis j'ai vu comment j'ai travaillé fort toute ma vie pour faire ça et comment un regard agressif
un sentiment de déception,
ou culpabilisait, ça me jetait à terre au-delà de la... Ça n'avait pas de bon sens. Je savais que, voyons donc, je ne vais pas gâcher une journée pour un petit rabroument de quelques secondes. Tu sais, je le prenais, ça dégalait un bobo en moi là, qui saignait comme ça n'avait pas de bon sens. Mais quand j'étais plus jeune, ben là, j'allais me faire masser, je me prenais soin, puis je me contrôlais, puis je disais, je vais me reposer, je vais être trop fatiguée, blablabla. Mais là, il est arrivé un événement dans ma vie où j'ai dit, c'est assez, je vais au fond de l'affaire.
Ginette, je vous propose qu'on prenne une petite pause musicale. On continue là-dessus dans quelques instants. Je veux quand même là, qu'on revienne un peu parce que c'est sûr qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent là, qu'est-ce que la science dit de tout ça. Donc, puisqu'on parle de l'enfance, je vous offre une chanson de Passe-Partout, mais remixée par Alpha Rococo. Plusieurs des auditeurs plus jeunes ou des parents vont reconnaître « Des fois, j'ai peur ». Des fois, j'ai peur. Chanson de Passe-Partout, refaite par Alpha Rococo. C'est joli quand même.
Hein? Oui, oui. Ça nous ramène à nos peurs.
Oui, c'est ça. Ginette, on a 7 minutes ensemble. Je vais vouloir vous parler de votre livre sur les rituels parce que j'ai écrit moi aussi sur le sujet, mais peut-être juste avant, parce qu'il y a peut-être des auditeurs curieux. Je serais moi-même curieuse d'inviter un psychogénéalogiste. Oui. Géanologue, on verra le bon terme,
oui,
mais
oui.
Je veux vous entendre, là, qu'est-ce que la science dit de ce lien entre corps et émotion? Parce que vous faites un lien que vous dites que vous l'associez.
Oui,
c'est ça.
Entre corps et émotion. D'abord, je voudrais te dire que, bon, la première partie, j'ai raconté mon expérience en MDR, mais dans la deuxième partie, parce que faut en revenir à l'intergénérationnel, j'essaye de comprendre pourquoi que ma mère était pas là pour moi, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, qu'est-ce qui l'a bloqué. Alors, je cherche son blocage et puis je passe par ses peurs, par la façon de voir la femme. Finalement, je remonte à sa jeunesse. Mm-hmm. Et pour enfin, à la troisième partie, découvrir son trauma à elle, qu'elle m'a transmis, puis que moi, j'ai transmis à mon âme. Mais ma mère est morte d'un cancer des os, puis les os, c'est fabriqué par la moelle osseuse, mm-hmm. et Mona est morte de la leucémie, c'est sa moelle osseuse qui n'était plus fonctionnelle. Alors, je montre les liens qu'il y a entre le corps, qu'est-ce qui a été transmis. Moi, j'ai été épargnée un bon moment parce que j'ai eu le regard du père qui était très positif. J'ai reçu une bonne dose, un bon héritage affectif du côté de mon père. Alors, bon, oui, je me suis... entre le corps et l'esprit, et si l'émotion n'est pas vécue, il y a un blocage dans... entre le corps et l'esprit, il faut finir par écouter l'émotion et tout le monde a du malheur. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas les exprimer parce que dans le temps, il y avait beaucoup de secrets puis il y avait beaucoup de conditionnement puis de honte puis de jugement parce qu'une fois qu'il est exprimé, il n'agit plus. Le pouvoir qu'il y avait à rester secret et à agir en nous, il est perdu. C'est nous maintenant qui l'avons, comme Cyrilnik dit, un trauma, une histoire, il faut que ça évolue. Un trauma, s'il reste coincé, ta mémoire est comme morte, elle ne grandit pas avec toi.
Mona, c'était votre fille, Ginette?
Oui, Mona, c'était ma fille. Et puis à 4 ans, on m'a dit qu'elle n'avait aucune chance de survivre plus de 20 mois. Et puis finalement, elle a vécu jusqu'à 15 ans. Puis je raconte son histoire dans un livre, justement, qui s'appelle Mona. Et puis, ce livre-là, c'est mon 11e titre, là, Guérir la mère, pour vous dire comment que cette expérience-là a traversé ma vie, a conditionné mes recherches, vraiment, c'est... OK, là, je me rappelle pas c'est quoi.
Oui, je vais y aller. Mais ceci dit, c'est ça, je vais vouloir creuser davantage tout ce filon-là. En fait, ma belle-mère est psychothérapeute, psychologue, en fait, elle me disait justement dernièrement, elle me parlait de ce sujet-là, puis elle me disait, il y a des familles où le silence se transmet, des familles tchut. Elle appelle ça vraiment comme le silence se transmet de génération en génération. Donc, j'aurai probablement l'occasion de causer de ça avec elle. Mais pour le temps qui nous reste, je voulais vous entendre là, sur votre doctorat parce que vous êtes intéressée à l'autobiographie et le soi des rituels.
Oui, le moi de l'autobiographie et le soi des rituels, puis j'essayais de faire la différence entre le moi et le soi. Et le soi, ben, c'est la partie éternelle de l'être. Et l'histoire de notre soi est construite beaucoup par les rituels de notre enfance. Et je me suis penchée sur la perte du sens du sacré dans les rituels. Pourquoi qu'on n'y croyait plus? Et moi, l'écriture, tu sais, un rituel réussi, dit, comment il s'appelle, mon favori, là. En tout cas, lui, il parle de, c'est le type qui a étudié tous les rituels du monde.
Oh, my God. Van Gennep?
Anyway. Non.
Non.
Anyway, lui, il dit qu'un rituel réussi, c'est un rituel qui unit le cœur et la tête. Et pendant cette unification-là, on passe un message. Nous autres, on nous passait le message de Jésus. Et moi, il n'y avait pas de, pendant que je buvais un rituel, je buvais une coupure. Je voyais le pain quotidien, le pain sacré, tout était le bien, le mal. Le mal était toujours du côté du corps, il était toujours séparé de l'esprit qui était revalorisé. J'ai analysé le rituel du perron de l'église jusqu'à l'Internet. Je raconte toutes sortes de rituels et j'ai montré comment on a perdu le sens du sacré. Mm-hmm. Pour retrouver un nouveau sens. Et moi, c'est l'écriture qui me suivait. Je me disais, ah, mais quand j'écris, je suis complètement branchée, mon cœur et ma tête. Alors, ce rituel-là, le rituel autobiographique, que ma recherche s'appelle comme ça, là, mm-hmm. C'est vraiment la façon avec laquelle je pouvais unir mon cœur et mon corps et ma tête. Tout, je me sentais toute unifiée quand j'écrivais. Donc, c'est ça. J'essaie de démontrer comment, quand on écoute notre voix intérieure, on est vraiment unifié, puis ça donne un sens à notre vie.
Un petit message en terminant, peut-être, qui s'inspire de votre expérience, que vous voudriez transmettre justement à nos auditeurs.
Un message?
Oui, vous auriez envie de nous dire un dernier message.
Un des moments merveilleux que j'ai connu, c'est quand je faisais des ateliers sur les récits de vie à l'Université du Troisième Âge. J'ai vu des petits miracles se produire par des gens qui commencent par écrire leur récit. Et là, ils voient toute la richesse, ils deviennent le héros de leur histoire. Et puis, c'est des transmissions formidables. Et puis, ça guérit, là. Ça nourrit, ça guérit, ça donne un sens. Fait que je souhaite que tout le monde prenne un crayon. Parce qu'écrire, c'est dessiner sa pensée, puis arrêter de penser que quelqu'un va vous lire. Écoutez votre cœur, puis laissez-le aller. Vous allez voir, vous allez découvrir des beaux secrets qui vont vous aider à vivre.
Ginette Bureau, c'est une excellente conclusion. Ce livre sur les rituels s'appelle « Réinventer les rituels », a été publié en 2012. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée, Chantal.
À vous aussi. Au revoir.
Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
Vous savez ce qui est drôle? Le livre de Madame Bureau s'appelle « Réinventer les rituels », publié en 2012, et celui que j'ai écrit s'appelle « Réinventer vos cérémonies, fêtes et rituels », publié en 2004. C'est quand même toute une similitude, c'est drôle. Parlant de similitude, il y a plein de liens à faire hein, dans tous ces sujets-là intergénérationnels, et ça tombe bien, on a plein d'émissions en banque pour vous sur canalem.vuesetvoix.com. Vous pouvez réentendre toutes nos émissions ainsi que sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Balado et Google Play Music. Pour notre deuxième partie, une autre chanson qui sur la peur, tellement peur de Gaétan Roussel.
De te regarder dans les yeux, de m'avouer vaincu de ne pas être heureux, et de ma propre histoire de ne rien comprendre, de ne pas te revoir. D'hier et de demain, des serpents, des requins, de toutes les représailles, et puis que tu t'en ailles, de ne pas y arriver, de dégringoler, de ne plus voir le beau, de devenir un monstre. J'ai tellement peur. D'être raté, fini, de pas ouvrir mon cœur. D'hier et de demain, des serpents, des requins, de toutes les représailles. Et puis que tu t'en ailles, de ne pas y arriver, de dégringoler, de ne plus voir le fond, de devenir vraiment tronc. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. We'll be right back. de manquer d'horizon, de te regarder dans les yeux, de m'avouer vaincu de ne pas être heureux, et de ma propre histoire de ne rien comprendre. Tiré de demain, des serpents, des requins, de toutes les représailles, et puis que tu te semblais de ne pas y arriver, de dégringoler, de ne plus voir le bout, de devenir vraiment trop. Tiré de demain, des serpents, des requins, de toutes les représailles, et puis que tu te semblais de ne pas y arriver, de dégringoler, de ne plus voir le bout, de devenir vraiment trop. J'ai tellement peur. De ne pas y arriver, de dégringoler, de ne plus voir le beau, de devenir vraiment trop. J'ai tellement peur.
J'ai tellement peur.
Tellement peur de Gaétan Roussel. Ma prochaine invitée est une spécialiste de la peur, femme cinéaste dans un monde dominé par les hommes, surtout dans le créneau du film de genre. Isabelle Grondin, son court-métrage Fantasy a remporté le prix spécial du jury au Festival international Fantasia, qui est film d'horreur et comédie de genre, comédie bizarre. Son parcours a été reconnu dans le livre Le cinéma québécois au féminin en 2016 aux éditions L'Instant Même. Isabelle Grondin, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que les films d'horreur nous font vivre?
Oui.
Qu'est-ce que...
J'ai mal compris. En plus, j'ai pris la peine de demander avant. Est-ce que parce que le signal a comme lâché. Pouvez-vous juste recommencer le début de la question, s'il vous plaît?
Oui, qu'est-ce que les films d'horreur nous font vivre?
Les films d'horreur nous font vivre peu de choses, mais des choses viscérales qui viennent nécessairement chercher quelque chose en nous, souvent qui remonte à l'enfance, la jeune adolescence, ça peut être aussi des rappels de trauma. Mm-hmm. Je donnerai pas la prétention au film d'horreur là, de susciter un paquet de réflexions sur ci ou sur ça. Par contre, un film d'horreur bien réussi a souvent la même portée. Donc, c'est vraiment d'aller jouer au niveau du ressenti. C'est pour ça que j'aime bien l'expérience cinématographique, surtout quand le film d'horreur a été vraiment le bien... bien fait, parce qu'il y en a des mauvais, hein, faut pas se le cacher.
C'est quoi un film d'horreur réussi?
Je vous attendais tantôt parce que vous disiez comédie, juste préciser, j'en ai fait deux, en fait. Une qui a jamais joué nulle part et elle ne jouera jamais nulle part. Et et puis la deuxième, en fait, c'était quelque chose de très trash, mais je travaille actuellement sur un court-métrage qui est une comédie noire. Donc j'en profite pour passer l'information parce que c'est tout récent que ça s'est officialisé, ce projet-là. Donc, ce serait mon 18e court-métrage dans mon cas.
18e, wow!
Oui. Oui.
Ben, j'ai appris qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire que vous avez été victime de censure? Votre film La Table a été vu 4 millions de fois, je pense, sur YouTube avant d'être retiré.
Plus que ça, j'étais rendue à 4 points, presque 2, 3, quelque chose comme ça. Non, c'est fou. Ça, vraiment, je dois dire... C'est un petit peu délicat, mais bon, c'est fait. J'échangeais justement avec d'autres collègues qui ont été victimes aussi de censure dans leur travail. Je pense à Yvan Godbout, je pense à Rémi Couture, qui sont des collègues de travail. J'ai bien connu leur combat. Yvan qui a pratiquement terminé le sien, mais bon, il y a encore cette possibilité-là de leur appel. Je confirme, en tout cas, de ce que je connais de mon histoire du cinéma québécois, à ma connaissance, je suis la cinéaste, puis j'ai même pas fait mon premier long encore, faut le faire. Mm-hmm. Je suis la seule cinéaste à ma connaissance qui a été autant censurée. Mon film Natal, effectivement, a été censuré de YouTube à 3 reprises. Il a fallu que je fournisse un paquet de papier, mais La Table, c'est ce qui a mené à la clôture de ma chaîne. Mm-hmm. Ma chaîne a été supprimée au complet, donc j'avais le même problème avec mon film Aspiralux, avec mon film Fantasme aussi, Fantasy. Et La Table a été également... Fantasme a été retiré de tout TV après 2 semaines à peine et malgré un excellent succès, si on veut, en termes de nombre de clics. Et le film, j'avais un contrat d'exclusivité pour 2 ans avec eux. Et j'étais dans une section spéciale pour public mature. Donc, il y avait un avertissement au début qui disait que c'était pour un public âgé de 16 ans et plus, ce qui représente bien mon public cible en général, 16 ans et plus. Et puis, après deux semaines, il a reçu manifestement qu'un ou deux kidam anonymes fassent une plainte. Le film a été retiré de tout TV. Il y a deux festivals dont je vais taire le nom, mais un qui, à la toute dernière minute, avec la table, m'a choqué ça. Mon hôtel était réservé, tout était réservé, mon voyage était prévu. Et puis, le grand boss, si on veut, de ce festival-là, a vu mon film qui devait faire à ce moment-là la première partie de Les Oubliés, mais Les Affamés, et il a trouvé de Robin Aubert. Et il a dit, moi, c'est pas vrai que je vais jouer des films porno dans mon festival. Donc, j'ai été maintes fois censurée. J'ai eu le même problème avec ma chaîne Vimeo. Pourtant, Vimeo, c'est différent. Non, vraiment, là...
Isabelle, je vais vous ramener là, un peu sur... parce qu'on est... C'est ça, une émission intergénérationnelle. Puis moi, ce qui me passionnait... Parce que j'ai un adolescent, justement, qui adore les films d'horreur, puis je me dis, bon, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait tant flipper là-dedans. Qu'est-ce que ça vient chercher?
Mais quel âge a-t-il? Ça va m'aider à répondre.
Ben là, il a 17 ans, mais je pense que ça fait un petit bout qu'il en écoute avec ses cousins, puis je suis pas toujours sûre que ce qu'il a écouté, il aurait dû l'écouter.
OK, bon, ben moi, en tout cas, de ce que moi j'en sais, moi, ça remonte à l'enfance. Alors, c'est pas moi qui va porter un jugement sur l'âge à laquelle quelqu'un va consommer un film d'horreur. C'est sûr que maintenant, avec les effets spéciaux, c'est peut-être un petit peu plus convaincant, quoique c'est encore drôle. Moi, j'ai commencé à écouter des films d'horreur très, très jeune dans ma vie. J'étais une enfant, évidemment, ma mère n'approuvait pas ça. Ma mère, d'ailleurs, je faisais ça en cachette de mes parents. Je n'avais pas le droit d'écouter ça. Alors, moi, moi, personnellement, qu'est-ce que j'allais chercher là-dedans, qu'est-ce qui me faisait tant flipper, justement, dans le film d'horreur, c'était, je trouve la comparaison un petit peu cucu, mais c'est un peu le trip de la montagne russe, le trip de la maison hantée, c'est-à-dire, on sait ce qu'on s'apprête à vivre parce qu'on l'a choisi, tout comme quelqu'un a choisi d'écouter un film d'horreur, il l'a pas fait de force, il a choisi de consommer ce film-là en particulier. Le but recherché, c'est souvent... d'atteindre un niveau de malaise, de peur, d'appréhension, de redoute presque constante. On est vraiment sur un boss d'adrénaline. Et une fois que tout ça est terminé, ben on se sent bien vivant. Il y a comme une espèce de... Mon Dieu, c'est ça, une espèce de réconfort que nous, on va bien, nous, on est correct, nous, on est... Selon moi, c'est peut-être aussi simple que ça. Je sais que beaucoup de gens veulent complexifier ce débat-là, mais pour moi, ça reste ça d'abord et avant tout. Évidemment, il y a peut-être une certaine sorte de public, je veux pas vous faire peur, là. Il y a peut-être une certaine sorte de public qui recherche des choses beaucoup plus malsaines là-dedans, mais ça, je pense que ça s'attribue également avec le film porno, je pense que ça s'attribue avec d'autres genres de films aussi, donc le film de guerre. Donc, je limiterai pas ça à l'horreur. Donc, je pense que c'est tout à fait normal, surtout quand on est ado. La quête de sensations fortes...
Parce que vous faites un lien, Isabelle, vous faites un lien justement sur les pulsions humaines de fond que ça va chercher, la colère, la sexualité, puis je me demandais comment ça évolue avec l'âge, ça, c'est par le film d'horreur.
Chaque personne est différente. Moi, je personnellement, je connais tellement de cinéphiles, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans. Les personnes que je connais qui sont vraiment à fond dans l'horreur, dans les réalisateurs, ce sont parmi les gens les plus sensibles que je connais. Les personnes genre sont vegan, sont incapables de, s'ils voient un petit insecte, ils vont essayer de le sauver pour lui donner une deuxième petite vie, ils vont pas le tuer. Je suis un peu comme ça aussi. Je suis pas vegan, mais presque, mais j'ai ça. Donc, je pense que il y a des gros préjugés qui traînent malheureusement sur les consommateurs de films d'horreur. Il y a, entre autres, tout comme la pornographie, il y a ce préjugé-là que la personne va potentiellement continuer dans des thématiques comme ça, donc suivre soit des pulsions, le fameux Eros Thanatos, donc soit on devient quelqu'un de violent qui va vouloir reproduire ce que nous avons vu dans les films. Ça, je m'excuse, là, mais on parle vraiment là, de cas hyper isolés. Dans la plupart des cas, ça reste le même. Dans le cas d'un film porno, ben ça va être une façon de se soulager. C'est une pulsion viscérale chez l'être humain, tout comme la colère, la violence. C'est probablement d'ailleurs les pulsions les plus dures à... à retenir. Et puis, quand on est ado, ben évidemment, on a les hormones dans le tapis. Puis, tout ce qui est un mélange de sexe, de provocation, de tout ce qui vient nous chercher au niveau hormonal, mais aussi au niveau de notre imaginaire, parce que notre rapport à la mort est très, très, très abstrait quand on a, par exemple, l'âge de votre fils, 17 ans. Quand on a 17 ans, quelqu'un de mon âge, c'est pratiquement un vieillard.
Ben, il y a une pensée, ça. Il y a une pensée magique dans tout ça. J'aimerais ça vous demander, il nous reste un petit 2-3 minutes ensemble. C'est l'Halloween dans quelques jours. Puis je me demandais, pourquoi les zombies fascinent autant? Pourquoi qu'il y a autant de films de zombies?
Mon Dieu, mais encore là, ça va être une réponse un petit peu peut-être intellect, pop à 5 sous. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout une fan de films de zombies. Donc, déjà là, moi, ce trip-là, j'ai jamais embarqué dedans, ni les films quand j'étais ado. C'était pas mon trip, j'en aime deux, je pense. Je sais pas combien. Moi, je pense que, collectivement parlant, là, si on fait abstraction de l'Halloween, des maquillages, etc., là, moi, je pense que, collectivement, nous sommes devenus tous des zombies, à un certain degré, avec l'arrivée d'un paquet de technologies. Je suis pas en train de faire le procès de ces technologies-là, je fais juste constater que on n'a jamais été autant brainwashing, fixé devant des écrans, le niveau de langage, le niveau de dialogue, il y a une profondeur, enfin, je sais pas, c'est le feeling que j'ai. Alors moi, j'ai l'impression que de faire le vrai zombie en bonne et due forme, il y a peut-être une espèce d'exutoire là-dedans. En même temps, c'est quelque chose qui va chercher tout le monde, puisque ça part quand même d'un fait vécu, le zombie, contrairement à toutes les autres... toutes les autres histoires, là, le vampire, Frankenstein, le loup-garou, ben, le mort-vivant, lui, a une origine bel et bien véridique. Il y a eu une époque où les gens, la médecine n'était pas évoluée. Et puis, si les gens, il suffisait qu'on n'entende plus le cœur battre pendant quelques secondes, que tout de suite, on constatait un décès. Alors, on enterrait les gens, mais les gens n'étaient pas décédés. Les gens avaient eu un arrêt respiratoire, cardio-respiratoire, et les gens revenaient à la vie. Alors, c'était pas rare dans les cimetières d'entendre des gens qui voulaient sortir des tombes. Alors là, on est des centaines d'années dans le temps. Alors, les gens, évidemment, étaient terrorisés, ultra-croyants, donc ils pensaient à toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont morts dans leur tombe de façon horrible, complètement horrible, tellement que, par la suite, pendant un certain temps, on enterrait les gens, et c'est de là que vient l'origine du mort-vivant. On enterrait les gens pas très creux dans la terre parce qu'on se rendait compte qu'on faisait des erreurs et on avait une petite clochette qui était à côté de la tombe pour que la personne, à la limite, sans trop d'effort, puisse arriver à se sortir un bras et sonner la clochette pour qu'on puisse venir la déterrer. Alors, il y avait le mort qui revient à la vie, ça vient principalement de ça, si on regarde au niveau historique. Ben là, maintenant, ce que c'est devenu, ben je pense que c'est une belle occasion pour plusieurs de faire la fête sans trop se prendre au sérieux. Et les zombies ont la cote, les humains bien ça. Mais moi, je pense que tout ça est plus le reflet de ce qu'on est devenu. C'est finalement mon avis.
Oui, ben c'est un sujet très, très riche. On aurait pu continuer encore sur cette voie. Merci de m'avoir éclairé sur les pulsions que mon fils va chercher à travers ça. On aura sûrement l'occasion
non, mais ça
de...
passe, hein? Ça passe dans 98% des cas. Après, c'est des cinéphiles ou c'est des gens qui choisissent leur film d'horreur. Ils vont pas consommer, du fast-food d'horreur. Là.
Merci beaucoup, Isabelle Grondin, d'avoir été parmi nous. Au revoir. Au revoir. Alors, on enchaîne avec Pas peur de L.E.J.
J'ai pas peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres. Pas peur d'une rage de temps, j'ai pas peur de la fin du monde. J'ai pas peur des bombes, de la peine maximale. J'ai pas peur du jugement des autres, du temps qui fait si mal. J'ai pas peur des silences, des tremblements de terre. J'ai pas peur de l'absence, j'ai pas peur de mon père. Même pas peur de l'enfer, pas peur de l'oubli. Pas peur de rester jusqu'au dessert dans les repas de famille. Pas peur d'être indécis, pas peur d'être imbécile. Pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie. Pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi. Pas peur de vieillir, de voir les enfants partir. Pas peur de la fin de l'été, j'ai pas peur de mentir. J'ai pas peur de l'obscurité, de pleurer sur une chanson. J'ai même pas peur de tout quitter, j'ai même pas peur de l'avion. Moi j'ai pas peur de trahir, d'abandonner des combats. Moi j'ai pas peur d'un clown triste ou d'une armée de soldats. J'ai pas peur de la bagarre, de passer pour un sauvage. Moi j'ai pas peur, même pas peur de manquer de courage. J'ai pas peur de l'échec, de passer sous une échelle. Pas peur des araignées, pas peur de perdre un être cher. J'ai même pas peur du vide, plus peur des dernières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi.
Hey, on vient d'avoir toute une conversation avec Isabelle Grondin, cinéaste et spécialiste du film d'horreur. Et tiens, je vais faire moi à mon tour ma Gaétan Roussel. Vous avez entendu la chanson tout à l'heure, alors j'y vais comme suit. Peur de manquer d'air. Peur que mon bébé naissant ne respire plus. Peur que mon cœur arrête de battre. Peur de tomber. Peur d'avoir mal. Peur d'aimer, parce que peur d'avoir mal. Peur de finir seul, mais peur d'être envahi. Peur de l'échec, mais parfois même de la réussite. Peur d'être oublié. Peur d'oublier. Peur d'être blessé. Peur de blesser quelqu'un. Peur de vieillir. Peur de mourir. Peur des cataclysmes environnementaux, qu'on appelle même maintenant éco-anxiété. Peur de manquer d'argent. Peur de la COVID. Ces peurs-là, certaines sont les miennes. D'autres sont celles des membres de mon entourage. Et je me suis fait la réflexion dernièrement que je suis une personne qui n'a jamais été très, très peureuse. Peut-être qu'il y a une part de naïveté ou d'inconscience dans le sens que j'ai été entrepreneur et je me suis toujours dit « ben on réglera ça quand arrivera la situation ». Et puis je me rends compte que c'est bon parfois de parler de mes projets à des gens qui ont peur un peu parce qu'ils m'aident à baliser le chemin. Ils m'aident à créer des projets beaucoup plus réalistes, beaucoup plus, en fait, prévoir ce qui pourrait aller mal, prévoir les obstacles et faire en sorte que j'ai des projets mieux construits. Par contre, il y a des gens qui ont trop peur et je me rends compte que quand je parle de certains projets, eux, au contraire, ça les angoisse et d'une certaine manière, ils projettent leur propre peur sur moi. Donc, j'ai appris à savoir à qui je parle de mes projets et à qui ne pas nécessairement en parler. Je pense notamment à un voyage que j'ai fait en 2015, à l'automne 2015, et il y en a qui vont faire le lien Paris, les attentats. J'allais prendre l'avion le soir même des attentats. J'y suis quand même allée. Et ce, au grand, grand désaccord de certains membres de ma famille, mais on dirait que je sentais en dedans de moi que c'était correct, que je pouvais y aller. Et ça m'a mené à vivre une des expériences les plus magiques de ma vie. Si vous avez envie de lire ça, c'est un article que j'ai écrit de cette expérience-là qui s'appelle « Quand un voyage d'affaires tourne en projet solidaire ». C'est sur mon blog chantaldoré.com. Et j'ai envie de dire, oui, il y a des peurs qui sont très légitimes parce que ça sert à quelque chose, hein. On disait qu'on avait peur du mammouth et tout le stress vient de ça aussi. Il faut parfois ressentir les peurs parce qu'il y a des choses vraiment, il ne faut pas être inconscient face à certaines choses. Par ailleurs, il y a tellement de peurs qui ne servent à rien, tellement de peurs où on s'en fait pour rien. Et j'ai envie de vous suggérer une petite lecture. C'est un tout petit livre et je l'avais entamé en me disant « Mais qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans? » Et ça s'appelle « Trembler, mais oser ». Et vraiment, je le recommande parce que je me rends compte dans la vie que des fois, il y a des gens qui font des choses très audacieuses et on se dit « Mon Dieu, ils doivent pas avoir peur, ces gens-là, dans la vie. » Et ça n'a rien à voir. C'est juste que la peur est là, mais on décide de foncer malgré tout. Alors, ça s'appelle « Trembler, mais oser ». Et je vous offre une dernière chanson sur le thème « Même pas peur » de Clarica.
La pluie lave même nos chagrins, puisque nos douleurs, on s'en fait des moufles, puisqu'on aimera jusqu'au dernier souffle, même pas peur, 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 même pas peur. Puisque tout est pur, comme ce ciel de traîne, repeint par l'azur d'un bleu méthylène. Puisqu'on a l'ivresse, l'amour, la beauté, l'éternelle jeunesse, la félicité, même pas peur. Nous grandissons enfin, puisque la misère du monde, on saura comment faut se la faire avec nos petits bras, même pas peur.
Même pas peur, même pas peur.
Même pas peur de Clarica. On parlait d'enfance et ça m'a rappelé comment des fois mes parents avaient peur que je tombe quand je grimpais et je leur disais « Ah, pas tomber, tata! » Tata, c'est moi, Chantal Doré, au micro d'Au fil du temps. Merci à nos invités Ginette Bureau, autrice de « Guérir la mer, transmission inconsciente » aux éditions Fides, et Isabelle Grondin, Isabelle avec un Z au lieu d'un S, cinéaste de films d'horreur. Remerciements à notre équipe, Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc en régie et à son excellent choix musical de la semaine, Catherine Bourderon à la recherche. Merci de nous présenter des gens aussi variés. La semaine prochaine, un grand bonheur. Je reçois Michel Labrèche-Larouche, ouais, la mère de Marc Labrèche, pour son livre « Les 40 hommes de ma vie couchés sur papier ». Ainsi que Valérie Harvey, que l'on retrouve avec grand bonheur pour le « do it yourself », soit la capacité de faire les choses par soi-même. N'ayez pas peur, bonne semaine, chers auditeurs!